Visage d'église. Visage d'église, une émission présentée par Pascal Bahut sur Radio Présence dans le Lot.
Chers amis, bonsoir. Nous nous retrouvons avec Bertrand Cormier ce soir pour continuer de découvrir et d'approfondir l'encyclique du pape François, Laudato Si. Merci d'être encore avec nous ce soir, Père Bertrand Cormier. Avec vous, nous allons aborder aujourd'hui l'évangile de la création.
Oui, bonjour, chers auditeurs. Très heureux d'être là à nouveau, surtout pour parler de ce sujet qui me tient un peu plus à cœur, en tant que prêtre, bien sûr, et depuis longtemps. Je laisse la parole à notre cher Saint-Père François.
Je n'ignore pas que dans les domaines de la politique et de la pensée, certains rejettent avec force l'idée d'un créateur, ou bien la considèrent comme sans importance au point de reléguer dans le domaine de l'irrationnel la richesse que les religions peuvent offrir pour une écologie intégrale et pour un développement plénier de l'humanité.
Les prochaines émissions seront des lectures suivies de l'encyclique, non plus par thème, mais par chapitre, ayant épuisé quasiment tous les thèmes que proposait le pape François lui-même, ce qu'il appelle les axes de son encyclique. Aujourd'hui, nous commençons à lire donc la deuxième partie intitulée « L'évangile de la création ». Ce n'est pas moi qui ai inventé ce titre, c'est notre pape. L'expression elle-même devrait déjà non seulement nous interroger, mais aussi nous provoquer. Saint Paul, dans plusieurs de ses lettres, parle de son évangile, par exemple dans l'épître aux Romains, au chapitre 2. Après son expérience de Damas, Paul se définira lui-même comme avorton des apôtres et recevra la bonne nouvelle ou évangile de Jésus lui-même. On parle aussi couramment des évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, leurs auteurs ayant reçu leur propre évangile de l'inspiration divine et des témoignages directs ou indirects des disciples, de ceux qui ont connu Jésus. Ainsi, quand le pape emploie l'expression « évangile de la création », il rattache tout un enseignement biblique à la création qui nous est donnée et qui nous inspire comme elle a inspiré les évangélistes il y a 2000 ans, pas avec les mêmes termes, diraient certains spécialistes de théologie, mais en tout cas dans la même veine, dans la même idée. Comme les évangélistes et saint Paul, le pape fait une lecture de la Bible de la foi catholique traditionnelle à la lumière de la bonne nouvelle que portent les créatures, ce qu'il appelle à d'autres endroits, comme on l'a dit il y a deux émissions, le message des créatures. Mais dans les numéros 63 et 64, François montre à la fois que cette relecture peut se faire avec différentes lumières qu'offre la raison humaine, c'est-à-dire la science, mais aussi avec ce qu'il appelle la sagesse.
Il est nécessaire d'avoir aussi recours aux diverses richesses culturelles des peuples, à l'art et à la poésie, à la vie intérieure et à la spiritualité.
Il rappelle que l'Église est ouverte au dialogue philosophique. Depuis toujours, pensons à un certain Saint Justin au début du IIe siècle, qui avait chrétien et qui avait ouvert une école de philosophie, ainsi qu'aux questions sociales, plus récemment avec ce qu'on appelle dans l'Église la doctrine ou le discours social de l'Église, dont les deux derniers apports majeurs sont les encycliques Laudato Si et Fratelli Tutti du Saint-Père François. Même dans son exhortation apostolique post-synodale Irida Amazonia, chère Amazonie, le pape montre l'importance de l'enseignement de ces peuples de la grande forêt pour notre réponse commune au réchauffement climatique. Plus encore que pour les créatures en général, qui ont tout un message à nous adresser, les peuples autochtones ont une connaissance et une sagesse de leur milieu de vie que nous n'aurons jamais avec notre seule science. Nous voulons tirer le meilleur de la connaissance de la forêt amazonienne, nous devons aussi entrer en dialogue avec les tribus qui l'habitent et l'apprivoisent depuis des millénaires.
Je rêve d'une Amazonie qui lutte pour les droits des plus pauvres, des peuples autochtones, des derniers, où leur voix soit écoutée et leur dignité soit promue.
Le numéro 7 de cette exhortation apostolique. Voilà un bon exemple de cet évangile de la création appliqué à une région du globe. Mais la foi catholique a sa propre tradition de foi et de pratique dans le domaine de la création. Si elle préfère employer le mot « création » plutôt que « nature », Elle veut surtout insister sur l'origine de cette création, qui est Dieu lui-même, et redire que tout est don, gratuit, qui demande une réponse libre. Ainsi, notre environnement n'est pas qu'objet d'études ou de profit, mais aussi lieu d'action de grâce pour un tel don et gratitude de la part des humains envers leur Créateur. Au numéro 64, le pape exhorte donc les chrétiens à prendre leur part dans cet évangile, à l'annoncer comme notre Seigneur le demande à ses disciples à la fin de l'évangile de Marc. Par exemple, il leur dit « Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création ». Chapitre 16. Cette annonce et ce témoignage de notre foi ne peuvent se limiter à un dialogue avec les philosophies, les sciences et les sagesses. Elle doit nous permettre de toucher tous les humains et même au-delà de toute la création.
Les chrétiens, notamment, savent que leur devoir à l'intérieur de la création et leur devoir à l'égard de la nature et du Créateur font partie intégrante de leur foi.
Petit commentaire, ce pape emploie le terme de nature parce qu'il s'adresse au-delà des chrétiens à tous les hommes de bonne volonté, comme on voit souvent au début des encycliques. Et dans ce texte, donc, le pape François cite son prédécesseur, Saint Jean-Paul II, dans son message pour la paix de 1990, donc déjà 31 ans. Au numéro suivant, au pluriel, le Saint-Père revient aux origines de notre foi en Dieu créateur et de l'enseignement de l'Église catholique sur la création. Si on veut entrer en dialogue avec les sciences et philosophies modernes, nous devons connaître notre propre trésor de la foi. Cette partie de l'encyclique a été placée en deuxième position. Ceci afin de commencer par faire entrer en dialogue les données de la science avec celles de la foi. Les récits bibliques de la création sont riches de symboles dont l'Église n'a jamais perdu les clés de compréhension, même si celles-ci évoluent avec le temps. Ces symboles sont la principale source de notre foi. C'est sans doute pourquoi ils revêtent une telle importance ces derniers temps, à la fois pour nous, mais aussi pour les détracteurs de la foi catholique. On sent bien que le pape veut entrer en dialogue avec la science, ce que ne pouvaient pas faire ses prédécesseurs déjà à partir de, enfin avant-guerre. C'est vraiment à la fin du XXe siècle et maintenant, au début du XXIe, qu'un vrai dialogue s'instaure, notamment on le voit au niveau de l'écologie. En Genèse au chapitre 1, il est dit « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme ».
Cette affirmation nous montre la très grande dignité de toute personne humaine, qui n'est pas seulement quelque chose, mais quelqu'un. Elle est capable de se connaître, de se posséder et de librement se donner et entrer en communion avec d'autres personnes.
Délibérément, le pape choisit de parler d'abord de notre dignité de créature à l'image et ressemblance de Dieu. Les termes de valeur propre étant plutôt employés pour les autres créatures. Chaque être humain détient cette très grande dignité qui lui est propre et qui lui est aussi confiée par Dieu lui-même. Dignité qui ne le referme pas sur lui-même, mais, comme toute créature, le rend capable d'entrer en communion avec son Créateur et avec les autres humains. Qui dit humain dit homme et femme, c'est-à-dire un être relationnel qui ne peut se connaître sans être connu et reconnu par un semblable, mais qui lui est aussi différent, mais pas indifférent. Un autre qui lui est donné n'est pas réductible à sa propre volonté et dont il dépend, et avec lequel il doit entrer en interaction et en interdépendance, comme disent certains commentateurs de Laudato Si. Ce qui est sans doute assez nouveau, c'est que cet autre n'est pas qu'humain. Au numéro suivant, le pape parle de trois relations fondamentales intimement liées, la relation avec Dieu, avec le prochain et avec la terre.
Selon la Bible, les trois relations vitales ont été rompues, non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de nous. Cette rupture est le péché. L'harmonie entre le Créateur, l'humanité et l'ensemble de la création a été détruite par le fait d'avoir prétendu prendre la place de Dieu, en refusant de nous reconnaître comme des créatures limitées.
Les premiers hommes auraient donc interprété à leur profit les deux passages bibliques les plus connus, où Dieu donne mission à l'humanité de soumettre la terre, Genèse chapitre 1, verset 28, de la cultiver, de la garder, Genèse chapitre 2, verset 15. une des causes très lointaines du réchauffement climatique pourrait trouver un éclaircissement dans une lecture à nouveau frais de ces deux passages. Le pape dénonce le refus de l'humanité d'hier et d'aujourd'hui d'être limité. Dieu lui-même nous a limités en délimitant notre rayon d'action. Ni l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ni l'arbre de la vie est dans un jardin. Voilà les limites de notre domaine d'action que nous avons très vite dépassées. Cela a valu à Adam et Ève, symbole de l'humanité entière, d'être chassés du paradis et d'errer sur terre pour subsister. La foi catholique établit un lien profond et intime entre ce péché des origines et le salut, c'est-à-dire la promesse de retrouver ce jardin, mais au-delà de la mort de toute créature. Il ne s'agit pas pour le pape François d'accuser, mais de regarder avec vérité et sérénité les déviances de l'humanité très vite après sa création. Le Saint-Père saisit ainsi l'occasion de répondre à nos détracteurs dès les années 60 quant à une soi-disant mauvaise interprétation de l'expression « dominer la terre », l'expression de la Genèse, de la part des chrétiens. Interprétation déviante qui serait à l'origine de la crise climatique, en schématisant un peu.
S'il est vrai que parfois, nous les chrétiens, avons mal interprété les Écritures, nous devons rejeter aujourd'hui avec force que du fait d'avoir été créés à l'image de Dieu et de la mission de dominer la terre, découle pour nous une domination absolue sur les autres créatures.
Sans abonder dans le sens de ceux qui dénoncent, même de l'intérieur du christianisme, une telle responsabilité mortifère, le pape a l'humilité, peut-être celle de saint François, de reconnaître qu'à certaines époques, les chrétiens ont pu interpréter dans le sens de domination absolue sur les autres créatures le passage biblique précédemment cité. La force de l'Église catholique est de relire pour chaque époque sa propre tradition et de l'enrichir, voire de la corriger, en revenant sans cesse à sa source, la parole de Dieu, la révélation. Une bonne lecture de ces récits des origines doit interpréter chaque texte en fonction de l'autre. Dominer ne signifie donc pas écraser, utiliser sans limite, mais au contraire, cultiver et garder pour faire fructifier.
Chaque communauté peut prélever de la bonté de la terre ce qui lui est nécessaire pour survivre. Mais elle a aussi le devoir de la sauvegarder et de garantir la continuité de sa fertilité pour les générations futures.
Le pape met en garde contre une mauvaise interprétation de la propriété, qui est non pas absolue, mais relative au nom de la triple relation avec notre Créateur, le seul vrai propriétaire absolu, avec le prochain et avec la terre. Ce don de la terre appelle donc à une réciprocité responsable entre l'être humain et la nature. En hébreu, le mot Adam signifie l'homme qui tire son origine de Adama, qui désigne la terre au sens de glaise, de matière pure. Adam dépend donc de la terre et pourtant Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Le mot en hébreu est Ish, masculin du mot Isha qui désigne cette aide, la femme. Ainsi le pape explique à partir du récit de la Genèse que notre relation à la terre est aussi essentielle que notre relation avec notre semblable humain, même si elle est décrite différemment. Et il dit que nous sommes responsables de cette relation. La terre n'est pas un objet dont on dispose l'humanité, mais un sujet créé par Dieu. Le livre du Lévitique dans la Bible nous dit « La terre ne sera pas vendue avec perte de tout droit, car la terre m'appartient et vous n'êtes pour moi que des étrangers et des hôtes. »
Cette responsabilité vis-à-vis d'une terre qui est à Dieu implique que l'être humain, doué d'intelligence, respecte les lois de la nature et les délicats équilibres entre les êtres de ce monde.
Notons que ces lois de la nature, les sciences les connaissent comme jamais l'humanité ne les a connues. Si chaque peuple a une connaissance empirique et une sagesse inégalable, jamais l'humanité dans son ensemble n'a eu une telle science de la terre entière, même si nous devons rester humbles toujours. Le pape conclut ce numéro 68 en s'attaquant à une évidence vieille de quelques siècles.
Nous nous apercevons ainsi que la Bible ne donne pas lieu à un anthropocentrisme despotique qui se désintéresserait des autres créatures.
En s'appuyant sur l'obligation du sabbat dans la Bible, par exemple, le pape montre que même la législation biblique s'attarde à proposer à l'être humain diverses normes, non seulement en relation avec ses semblables, mais aussi en relation avec les autres êtres vivants. Normes que nous serions bien avisés de nous rappeler si nous ne voulons pas périr. Le salut de toute la création en dépend. La Bible nous rappelle la vertu d'obéissance de ces lois qui ont permis à l'univers d'exister depuis 15 milliards d'années, alors que le paradigme technoscientifique n'avait besoin que de quelques décennies pour détruire entre 30 et 90% des espèces animales et végétales. Dans notre prochaine émission, nous continuerons de lire l'évangile de la création avec joie et délectation.
Merci à vous, Père Bertrand Cormier, pour ce temps que vous nous consacrez, qui nous permet d'approfondir, de découvrir cette encyclique avec, comme vous dites, avec délectation, et qui nous permet de nous l'approprier de façon à la fois personnelle et qui nous invite à nous ouvrir au monde. Merci à vous, on se retrouve très prochainement. Tom est à la technique ce soir de notre émission qui revient la semaine prochaine. En attendant, restez fidèles au programme de présence, aimez les gens et portez-vous bien.
Visage d'église. Une émission qui vous a été présentée par Pascal Bahut sur Radio Présence dans le Lot.